VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30 TU. On est jeudi 6 juillet 2017 au sommaire. Au Mali, combat entre éléments de la plateforme pro-gouvernementale et la coordination des mouvements de l'Azawad. La MINUSMA condamne une violation du cessez-le-feu. La CPI estime que l'Afrique du Sud a failli à ses obligations pour n'avoir pas arrêté le président soudanais Omar el-Béchir en 2015. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar annonce la libération totale de la ville de Benghazi des islamistes. Et au Sénégal, polémique après l'annulation des épreuves de français du baccalauréat.
Pour dire vrai, j'ai été déçu parce que bien avant les épreuves, j'avais appris qu'il y avait une fuite au niveau du français, de l'histoire géo et l'anglais.
Le président américain Donald Trump en visite en Europe à la veille de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Il demande à la Russie de cesser ses activités de déstabilisation. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. On démarre par la Centrafrique où une double manifestation a eu lieu ce jeudi contre la MINUSCA. À Bambari et à Bria, plusieurs centaines de personnes ont marché pour exiger le départ des contingents mauritaniens et marocains. Les explications de Freeman Sipila.
À Bambari, près d'un millier de personnes sont descendues dans la rue pour exiger le départ des casques bleus mauritaniens. Les manifestants accusent ces soldats de brutalité contre des civils non musulmans et d'avoir fourni des équipements militaires aux éléments de l'UPC, l'Unité pour la paix en Centrafrique, un groupe armé majoritairement peul. Ils demandent cependant le maintien des troupes portugaises, congolaises, burundaises et gabonaises qui, selon eux, assurent bien leur mission. La mobilisation a pris fin par la remise d'une liste de revendications aux autorités préfectorales de la Waka afin d'être remise au gouvernement et aux responsables de la MINUSCA. À Bria, par contre, les manifestants étaient estimés à plus de 30 000. Ils exigent eux aussi le départ des soldats marocains qu'ils accusent d'être de connivence avec la faction ex-Silica, responsable en partie des violences dans cette ville. Nous ne comprenons pas cette stigmatisation de certains contingents qui assurent leur mission de manière professionnelle, a réagi Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA. Nous continuerons de travailler avec les autorités et la population pour amener la République centrafricaine vers la paix, a-t-il conclu. Fumansi Pila Bongi, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des peines allant de 2 mois à la prison à perpétuité ont été prononcées ce jeudi contre 8 militaires accusés de meurtre de civils au Kasaï, dans le centre du pays. Le tribunal militaire de Mbujimayi jugeait au total 9 militaires. Le 9e a été acquitté. 2 soldats en fuite sont parmi les condamnés à perpétuité. Au nord du Mali, des affrontements entre groupes armés signataires de l'accord de paix ont fait 3 morts. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, condamne dans des violations continues et accrues du cessez-le-feu par les 2 mouvements signataires de l'accord. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Bientôt 1 mois qu'il y a une vive tension à l'intérieur de la ville de Kidal. Plusieurs imgad ont vu leurs maisons et lieux de travail saccagés ou brûlés. En plus de cette vive tension entre les différentes communautés, on assiste à des mouvements de convois armés dans la région de Kidal, des provocations et des combats, dont les affrontements armés dans les alentours de Kidal-ville et au sud de Agel-Ok. Même si le bilan n'est pas connu, ces combats entre la SEMA et plateforme ont été meurtriers selon plusieurs témoins, surtout dans la zone d'Agel-Ok. Ces agissements de la part des mouvements sont d'autant plus condamnables qu'ils font fi de tous les appels que nous n'avons cessé de lancer à leurs dirigeants de faire preuve de sagesse et d'agir avec responsabilité. C'est ce qu'a déclaré Mamad Salet Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA. En tout cas, si ces violences persistent, elles affecteront non seulement la mise en œuvre de l'accord pour la paix, elles profiteront aussi aux terroristes pour gagner davantage de terrain, mais risquent également de saper la confiance entre les partenaires pour la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, le gouvernement sort de sa réserve et après la détention du journaliste Ali Soumana, que Niamey juge légal, en réponse à des associations de journalistes qui dénoncent une violation de la loi sur la presse. M. Soumana, fondateur de l'hebdomadaire privé Le Courrier, a été écroué lundi après plusieurs jours de garde à vue. La Cour pénale internationale a jugé aujourd'hui que l'Afrique du Sud avait manqué à ses obligations en n'arrêtant pas sur son sol en juin 2015 le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide au Darfour. Le point avec Dili Diko.
Le juge Kouno Tarfousser a déclaré que la Chambre a conclu que l'Afrique du Sud n'a pas respecté la requête de la Cour pénale internationale d'arrêter et de remettre Omar el-Béchir et qu'elle a empêché la Cour d'exercer ses fonctions en lien avec les procédures criminelles instituées contre le président soudanais. Les juges ont cependant refusé de renvoyer l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait saisi en 2005 la CPI au sujet de la situation au Darfour, ni devant l'Assemblée des États partis au statut de Rome, traité fondateur de la CPI. La procureure Fatou Bensouda peut maintenant décider ou non de faire appel. Omar el-Béchir est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, une province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Même si les déplacements du président soudanais sont réduits, il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. Khartoum a d'ailleurs annoncé lundi qu'il se rendrait à Moscou pour la première fois en août en réponse à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine.
La fête de l'indépendance du Malawi tourne au drame. Au moins 8 personnes, dont 7 enfants, sont mortes et une soixantaine blessées lors d'une bousculade dans un stade de Lilongwe, la capitale économique. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, a annoncé la libération totale de la ville de Benghazi des djihadistes après plus de 3 ans de combats meurtriers. Une victoire pour l'armée nationale libyenne, Salwa Jafari.
C'est vêtu d'un uniforme militaire blanc que le maréchal Haftar a annoncé la nouvelle. Une libération totale, dit-il, après une lutte continue contre le terrorisme et ses agents, qui a duré plus de 3 ans. À Benghazi, des scènes de liesse animaient aujourd'hui les artères principales.
Merci aux nobles hommes qui nous ont soutenus, grâce à eux, au général Khalifa Belkacem Haftar, ainsi qu'aux hommes au grand cœur comme Aguila Saleh. Benghazi a été libéré, le reste de la Libye va suivre.
La Libye est livrée au chaos depuis la chute de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Au cours du printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée « Dignité » pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne qui était alors tombée aux mains des djihadistes. Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye, un gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et des autorités non reconnues basées dans l'est du pays auquel est lié le maréchal Haftar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a critiqué ce jeudi le comportement déstabilisateur de la Russie à la veille d'une rencontre programmée avec son homologue russe Vladimir Poutine au sommet du G20. En direct de ce studio 9 de la Voix de l'Amérique, Tatiana Mosso.
Donald Trump a déclaré en effet que les États-Unis travaillaient avec leurs alliés pour s'opposer aux actions de la Russie et à son comportement déstabilisateur. Il a également estimé que la Russie avait pu s'immiscer dans l'élection présidentielle de 2016. Ces rares critiques du président américain contre la Russie interviennent à la veille de sa toute première rencontre avec Vladimir Poutine pendant le sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne. Cette rencontre sera observée attentivement par ses pairs, mais aussi aux États-Unis sur fond d'enquête sur l'influence russe dans l'entourage de Donald Trump. Washington dit certes vouloir une relation plus constructive avec Moscou, mais les relations sont au plus bas depuis le renforcement des sanctions contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne et son soutien au régime syrien. Dans son discours, Donald Trump a brossé une image de l'Occident confronté à des défis existentiels, ceux de défendre notre civilisation contre le terrorisme, la bureaucratie et l'érosion des traditions, selon les mêmes extraits.
Merci beaucoup Tatiana Mosso. Par ailleurs, des heurts ont éclaté ce soir entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police qui a décidé de disperser la foule au moyen de gaz lacrymogène et de canons à eau. La police a chargé le cortège de 12 000 personnes pour en faire partir plusieurs centaines d'extrémistes encagoulés et habillés de noir et des affrontements ont éclaté dans la foulée à Hambourg. Plusieurs personnes ont été blessées, d'autres interpellées par les forces de sécurité selon des images de la télévision allemande. Le Parlement européen a une nouvelle fois demandé la suspension de négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE si le pays adoptait une réforme constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Cette réforme approuvée lors d'un référendum en avril prévoit la suppression des fonctions de premier ministre au profit d'un président au pouvoir renforcé et qui pourra prendre des décrets et aura la haute main sur le pouvoir judiciaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en Suisse pour participer aux négociations sur Chypre et essayer de rapprocher les points de vue sur une réunification de l'île. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée ce soir par Blanche Chanou.
Un rapport de deux centres britanniques de recherche nous fournit un aperçu de la performance économique du Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Angola. Selon ce rapport, le Kenya a considérablement bénéficié d'une croissance forte de ses partenaires régionaux, comme l'Ouganda qui reçoit 11% des exportations kenyanes en 2016 et 41% vers le continent africain. Kalo, une start-up qui propose de conseiller les agriculteurs sur le prix de vente de leurs céréales. Mise en selle par l'ONG française Rongit et son partenaire ETC Terra au Burkina Faso, la start-up est présente dans 7 pays. Le concept aura permis à plus de 73 000 agriculteurs répartis entre le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la Gambie et le Soudan de générer un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Au Niger, le lycée professionnel de l'hôtellerie et du tourisme ouvert en 2015 est en pleine restauration. La Banque mondiale devrait injecter 800 millions de francs CFA pour moderniser les équipements et améliorer les niveaux de formation en recrutant des professeurs venus de l'étranger, principalement du Maghreb. Ce lycée unique au Niger a été lancé par un cabinet d'études tunisien.
Et on passe au sport avec Yacouba Ouedraogo. Rebonsoir Yacouba.
Rebonsoir Abdourahmane, rebonsoir à tous.
Alors on passe au football, les pharaons d'Égypte sur le trône du continent africain.
Oui, la FIFA a dévoilé son traditionnel classement mondial mensuel. Pas de grand changement sur le continent noir pour les trois premiers, avec l'Égypte qui demeure en tête, suivi du Sénégal et de la RDC Congo qui éjecte le Cameroun du podium. Les Lions indomptables se retrouvent cinquième derrière la Tunisie. Le Nigeria, le Burkina Faso, l'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire complètent le top 10. Sur le plan mondial, l'Allemagne, forte de sa victoire à la Coupe des Confédérations, est en tête du classement. Le Brésil et l'Argentine lui emboîtent le pas.
Henri Onyekuru est prêté à Anderlecht et Issa Sissoko rebondit à Amiens.
Effectivement, après sa brillante saison à Open, Henri Onyekuru a été recruté par Everton. Mais l'attaquant nigérian n'évoluera pas chez les Toffees la saison prochaine puisqu'il a été prêté dans la foulée à Anderlecht. Revenu en France l'hiver dernier, Issa Sissoko, lui, a pu se faire remarquer du côté d'Angers. Le latéral droit en a profité pour continuer l'aventure en Ligue 1. Il s'est engagé avec Amiens, le promu.
Sadio Mané signe son retour de blessure.
Bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga. L'international sénégalais écarté des pelouses pour blessure avait manqué la fin de saison avec Liverpool. Deux mois après, le meilleur buteur des Reds, 13 buts et meilleur joueur a retrouvé le camp d'entraînement. Sadio Mané pourrait manquer les premiers matchs amicaux de Liverpool, mais il sera attendu pour les matchs face à Tranmere, Rovers et Wigan Athletic.
Marcel Kittel remporte la 6e étape du Tour de France.
Tout à fait. L'Allemand, le sprinteur en vue du début du Tour, s'est imposé lors de cette 6e étape à Troyes, signant du coup son 2e succès depuis le départ. C'est le 11e depuis son premier succès en 2013. Kittel a devancé le champion de France Arnaud Démare au terme de cette étape sans conséquence sur le classement général mené par le Britannique Chris Froome.
Et on termine par le premier match complet pour Novak Djokovic dans le tournoi de Wimbledon.
Effectivement, le Serbe a surclassé l'espoir tchèque Adam Pavlasek en 3-7, 6-2, 6-2, 6-1. Il accède ainsi au troisième tour de Wimbledon. Le triple champion de Londres 2011, 2014 et 2015 n'avait passé que 40 minutes sur le gazon lors de ses débuts mardi en saison en raison de l'abandon du Slovaque Martin Hingis touché à un mollet.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Le système éducatif sénégalais est dans la tourmente. Après le concours général et les épreuves anticipées de philosophie, l'examen du baccalauréat est entaché de fraude, de soupçons de fraude en tout cas. Les épreuves de français, d'histoire et de géographie se sont retrouvées entre les mains de candidats via les réseaux sociaux. D'où viennent les fuites et qui sont les auteurs? Autant de questions auxquelles les autorités sénégalaises tentent de répondre. Reportage à Dakar, Seydina Bagay.
Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats sont désorientés. Sous le couvert de l'anonymat, ils confient leur détresse.
On n'y peut rien, nous sommes des candidats. On nous oblige de faire telle épreuve. Nous, on est là pour faire les épreuves, on n'y peut rien, on attend. Mais carrément, nous sommes perturbés, le fait d'arrêter les examens et les épreuves. Ah, vraiment, nous sommes découragés, carrément. Nous sommes perturbés parce que nous à L1, vous le connaissez, comme le français, c'est une matière dominante pour nous.
Ce candidat avoue avoir eu accès aux épreuves bien avant le début de l'examen.
Pour dire vrai, j'ai été déçu parce que bien avant les épreuves, j'avais appris qu'il y avait une fuite au niveau du français, de l'histoire géo et l'anglais. Donc lorsque je faisais le résumé, le président du jury est venu et par la suite, il a dit qu'on va annuler les épreuves et tout. Mais j'ai peur que cela gâche notre réputation, pour dire vrai. Parce qu'on peut dire, ce gars a eu le bac en 2017, donc les épreuves de 2017 ont été fuitées, donc le bac n'est pas valable. Donc il n'y a pas de valeur.
Pour rétablir la crédibilité du baccalauréat, cette jeune candidate demande la reprise pure et simple de toutes les épreuves.
Je me sens un peu vexée, quoi, vraiment, parce que je ne m'y attendais pas. Je croyais qu'on allait venir faire les épreuves et repartir, quoi, vraiment. Bah, c'est une perte de temps parce que on a passé presque des nuits et des nuits à réviser et là, on vient, on nous dit qu'on va reprendre les épreuves. On n'a pas le temps. Par exemple, si on veut aller à l'étranger pour continuer nos études, ils vont nous dire que notre diplôme n'est pas valable parce que il y avait fuite. Ça ne nous arrange pas aussi. Faut refaire ça.
En poste depuis 2001, le directeur de l'Office du baccalauréat a déclaré publiquement qu'il ne démissionnera pas malgré ce scandale inédit dans l'organisation du bac. Il a par ailleurs annoncé la reprise des épreuves touchées par les fuites ce lundi 10 juillet 2017. Seydina Abargay, à Dakar, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les attentats suicides des islamistes nigérians de Boko Haram se multiplient ces derniers temps au Cameroun. Depuis samedi, trois localités de la région ont subi des attaques meurtrières. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Mora, dans l'extrême nord camerounais, rendu ici par Lionel Gaïma.
En une semaine, plusieurs attentats suicides ont frappé les communautés camerounaises de Femeka, Mora et Kerawa, près de la frontière nigériane. Des responsables militaires et le gouverneur de la région affirment que ces attaques ont fait au moins 20 morts, dont 9 kamikazes. D'après Mabouwa Isaac, chef du groupe d'autodéfense de Kerawa, une centaine d'habitants ont fui le village depuis l'attaque samedi dernier.
On a dit « Oh, stoppez-vous ». Les femmes ont commencé à trembler, elles ont commencé à avoir peur. Et puis on a commencé donc à les jeter avec les cailloux et les frontes. Elles s'est blessées, elles s'est fatiguées. Bon, elle aussi, elle-même, elle est en train de détacher. Et puis, certaines de nos camarades sont venues l'arrêter par derrière.
Un adolescent de 17 ans a été arrêté parmi les assaillants et est remis à l'armée camerounaise. Mais deux femmes du groupe ont réussi à se faire exploser, tuant quatre personnes. Les attaques suicides ont repris depuis fin mai. Une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible.
My priority is to build on the successes.
Ma priorité est de bâtir sur le succès, m'assurer que le partenariat qui existe est renforcé et naturellement, comme la menace est dynamique, nous devons trouver des nouveaux moyens pour faire face à ces défis changeants. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekrio, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun, qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burundi, depuis cette semaine, des travailleurs de la mairie de Bujumbura font payer des frais de stationnement sur les voies publiques aux conducteurs de véhicules, une mesure qui vient ajouter des taxes supplémentaires aux habitants du centre-ville de la capitale, selon plusieurs conducteurs de véhicules. Les réactions enregistrées à Bujumbura par notre correspondant Christophe Kourounziza.
Vers les heures de midi ce mercredi, de nombreux véhicules étaient visibles sur l'avenue de Mission centre-ville de Bujumbura, comme dans d'autres avenues fréquentées de la capitale. Des percepteurs en gilet orange se déplaçaient de voiture en voiture pour donner des tickets de 300 et 2000 francs burundais pour des voitures garées sur les chaussées pendant un temps variant entre 1 et 12 heures. Ce conducteur estime que la décision de la mairie vient à point nommé, mais devait être suivie d'autres mesures.
Je pense que d'un côté, c'est très bien. Mais d'un autre côté, il faut voir, l'État a mis cette disposition, mais sans avoir préparé les parkings des particuliers, et ensuite sensibiliser la population. La fluidité de la circulation se remarque automatiquement.
Même constat pour cet artiste qui jadis fut gouverneur d'une province à l'est du Burundi.
À Bujumbura, je ne crois pas que les parkings soient bien aménagés. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signes qui matérialisent les limites, le redimensionnement des routes. Je crois que c'est une opération qui devrait se mener avant qu'on ne pense à la facturation et à faire taxer les gens ces parkings.
Cet autre conducteur de véhicules remarque certaines imperfections à corriger pour que la mesure de payer les parkings soit suivie avec efficacité.
D'abord, il n'y a pas de trottoir pour mettre les véhicules devant les endroits de travail. En même temps, il n'y a pas de sécurité pour ces véhicules. Mais pour le gardiennage, c'est autre chose. Tout cela mérite une correction concertée entre les propriétaires des véhicules et la mairie de Bujumbura.
La gestion des points de stationnement sur les véhicules est confiée à 4 sociétés privées qui ont fait une convention avec la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville avait informé que les emplacements de stationnement devaient être signalés par une matérialisation au sol qui confirme que le stationnement est payant. Freddy Mbonima.
La ville de Bujumbura doit s'adapter aux autres villes du monde. Cette semaine, ils ont commencé. C'est pour aussi faire respecter cette recommandation. Et c'est aussi pour que la mairie puisse quand même avoir de l'argent, pouvoir développer différentes entités administratives. Il y a 4 sociétés qui ont gagné et ces sociétés doivent impérativement faire payer ses droits, aussi pouvoir assurer la sécurité de ces véhicules.
Les véhicules immatriculés de l'État, la police, l'armée, les véhicules des missions diplomatiques et des organisations internationales, ainsi que ceux des handicapés, sont exemptés de cette taxe de stationnement. Christophe Nkourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
La première réunion entre le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sera suivie de près mais par cause d'un quelconque espoir de progrès. Les deux leaders ont exprimé leur souhait de restaurer des relations dégradées par l'intervention russe en Ukraine. Par ailleurs, l'enquête en cours sur une ingérence présumée de la Russie dans la dernière élection américaine va planer sur cette rencontre, Solange Nyamulisa.
Le premier face-à-face Trump-Poutine aura lieu en marge du sommet G20 à Hambourg en Allemagne. Pour le Kremlin, les deux hommes vont parler de la lutte contre le terrorisme, la Syrie et l'Ukraine. La Maison-Blanche assure de son côté que le président Trump va décider du sujet des discussions, qualifiant la réunion de rencontre bilatérale normale. Stefan Sestanovic du Centre de réflexion Council on Foreign Affairs.
Le président a ses propres impulsions. Il pourra décider d'orienter la réunion vers une direction inattendue. Nous devrons être préparés à cela. C'est son style.
Mais l'enquête en cours sur l'ingérence russe en collusion éventuelle avec la campagne de Trump jette une ombre sur les espoirs d'amélioration des relations entre Washington et Moscou. Anna Torbon de l'Institut Hudson.
Tout ce qui va se passer entre Trump et Poutine sera perçu dans ce contexte. Trump a-t-il été trop amical ou essayait-il plutôt d'être ferme avec la Russie pour calmer les critiques? Je pense que toutes ces questions auront des réponses sous peu.
Mais peu de gens s'attendent à ce que Trump soulève la question du piratage informatique russe qui, selon les services de renseignement américains, ont aidé le président américain à se faire élire. Dans les rues de Moscou, les Russes continuent d'espérer qu'après la rencontre des deux leaders, les relations vont s'améliorer. Constantin et Moscovite.
Une telle situation ne peut durer longtemps. On devrait comprendre que sans collaboration, il n'y aura pas de progrès.
Les dictateurs estiment que toute tentative de coopération sera limitée à la rhétorique. Andrei Kolesnikov du Centre Karjenei de Moscou.
Actuellement, nous ne voyons aucun agenda concret ni des objectifs concrets pour les deux leaders, encore moins une volonté de mise en œuvre de ces objectifs. Poutine semble attendre des gestes de Trump alors que Trump est incapable de gérer ses propres problèmes aux États-Unis. Il ne sait pas quelle attitude prendre vis-à-vis de Poutine, sans objectif, sans volonté, pas de progrès.
Quel que soit le résultat, la rencontre bilatérale constitue une victoire pour le Kremlin, ajoute Kolesnikov. Si elle se passe mal, la Russie en voudra aux États-Unis. Et si tout se passe bien, Poutine s'en attribuera le mérite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique comme d'habitude. Et notre sujet de cette semaine, mariage mixte, rencontre des deux cultures, des avantages et des inconvénients selon vous. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou contactez-moi sur ma page Facebook. C'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40 ou envoyez un message au WhatsApp ou Viber au 001-703-350-3731. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Wake up, stand up, Africa. Come on, so pop. Comme l'ingue d'orne d'orne L'oubare n'a am L'oubare n'a m'en M'enou l'on a peni Imentivet is your wealth Imentivet are your dreams Ce que j'ai à tout nom C'est terre histoire M'enou le déni Say way at say fetch Teranga say dom, manu le dere ni. Imentivet is your wealth. Imentivet are your dreams. Live again. Africa, live again. Stop, smile again.
Africa Dream Again, Youssou N'Dour, un titre choisi par Lionel Gaïma qui a réalisé cette édition. Cette édition qui est donc terminée, merci de l'avoir suivi. À la console, il y avait Joubert Altaïb, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.